Merci Jean-Louis, ça va?
Merci. Oui.
Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus après tous ces beaux cantiques. C'était vraiment des chants merveilleux. On voit bien que l'Esprit dirige, parce qu'à travers le message de ce matin, vous allez voir que Dieu dirige vraiment toutes choses. J'aimerais ça vous parler, ce qui est au tableau, des sept étapes qui mènent à la gloire de Christ. Vous allez tourner avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Mais juste auparavant, juste mentionner, peut-être que parmi vous, il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas, c'est peut-être la première fois que vous me voyez. Pour d'autres, il y a ici des membres de ma famille, de ma parenté qui sont là depuis nombre d'années. Et j'y étais moi-même. J'ai grandi ici, au sein de cette assemblée du Cap de la Madeleine, lorsqu'un jour, à l'âge de 15 ans, le Seigneur est venu toucher mon cœur. Et je veux bénir vraiment Dieu parce que, à travers les bons, comme on dit souvent, et les mauvais moments, les temps d'épreuve, Dieu a su nous faire grandir. Et je peux vous dire que vous tous qui êtes ici ce matin, vous avez un privilège d'être ici dans cette église du Cap de la Madeleine, dans laquelle j'ai grandi, dans l'ancien local qui a été brûlé. Non pas le nouveau qui avait été rénové, mais tout l'ancien. Il y en a quelques-uns qui se rappellent de cela. Et je me rappelle que, très timide, lorsque j'étais entré au tout début, quand on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas grand monde, on est gêné. Et le premier qui était venu me saluer, eh bien, c'était notre frère Michel Pedneau, qui était venu m'accueillir. Et lui aussi était, il ne faut pas le dire, on était jeunes dans ce temps-là, mais il m'avait accueilli. Et puis, à partir de là, le Seigneur a travaillé. Puis, il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies et la direction vraiment du Seigneur est là pour nous diriger. Puis, j'espère que ce matin, Dieu, à travers ce message, va vous parler. Et j'espère que ce n'est pas mon message que vous allez entendre, mais que c'est Dieu. Parce que ce matin, vous savez, vous n'êtes pas venu ici par hasard. Même si vous avez été invité par quelqu'un, ou peut-être que vous venez, peut-être, oui, depuis un certain temps ici, mais Dieu a quelque chose à vous dire à chacun de vous ce matin, comme il a eu à me dire à moi. Et comme peut-être encore ce matin, il va me parler. Et j'aimerais ça que Dieu parle à nos cœurs. On en a besoin. On approche de la fin des temps. On l'a chanté dans ce beau cantique. Hein? La mariée, cette fiancée se prépare. Et c'est bon pour chacun de nous d'être prêt. On le sait, on est à la fin des temps. Les temps difficiles approchent. Mais nous devons être prêts à faire face à toutes ces situations. Et qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Eh bien, de connaître ces étapes qui ont mené à la gloire de Christ devraient nous aider à persévérer à travers toutes les situations, bonnes, mauvaises. Dieu veut nous bénir. Et il veut nous garder vraiment dans ses voies. Alors, les sept étapes qui mènent à la gloire de Christ. Alors, je vous invite à tourner dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Et on va lire un texte pour avoir notre base pour ce matin, pour que le Seigneur puisse nous diriger ensemble. Actes des Apôtres au chapitre 2 et à partir du verset 1er. Alors, aux Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 1er, nous lisons « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un vent vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et continuez au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par vous au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Alors que le Seigneur ce matin puisse bénir sa parole dans nos cœurs et qu'il puisse nous aider à travers ces 7 étapes dont l'apôtre Pierre fait mention ici à travers cette lecture que nous avons faite. Premièrement, nous sommes à 50 jours après la crucifixion du Seigneur. Les 4 évangiles, si vous connaissez la parole de Dieu, les 4 évangiles nous racontent, à partir de la naissance de Jésus jusqu'à la mort de ce Jésus de Nazareth, juste avant la Pâque, il a été crucifié. Et au verset 1er, on l'a vu, il est question du jour de la Pentecôte, c'était le 50e jour après, et c'était une fête qui se fêtait déjà dans l'Ancien Testament. J'ai écrit les versets parce que le temps passe et on n'aura pas le temps de toutes les lire, mais vous pouvez les prendre en note. Et vous allez voir que la Pâque était célébrée justement ce 50e jour. La Pentecôte était célébrée ce 50e jour après la Pâque. Et la Pentecôte, elle faisait partie de 3 fêtes auxquelles, annuelles, auxquelles tout le peuple se devait de se présenter à Jérusalem. Et alors, on voit ici la célébration de la Pentecôte comportait l'offrande des prémices de la moisson. Et vous savez, la venue du Saint-Esprit, comme on l'a lu dans ces premiers versets des Actes des Apôtres au chapitre 2, nous présente le Saint-Esprit comme le prémice de l'héritage du croyant. Et nous connaissons tous les versets qui nous disent qu'on a reçu ce sceau, ce gage du Saint-Esprit lorsqu'on a mis notre foi vraiment dans le Seigneur Jésus. On a reçu un sceau, une confirmation que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et là, dans notre texte, on voit les personnes qui sont ajoutées à l'Église. À cause de tout cela, il y a eu un nombre de personnes qui se sont données au Seigneur à cause du message de l'apôtre Pierre. Et ces personnes étaient réunies en attendant. On sait ce qui s'est passé, hein? Le Seigneur a été saisi, on l'a emmené, il avait été abandonné de tous ses disciples. Et là, le Seigneur avait dit quand même à ses disciples d'aller à Jérusalem après sa résurrection et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et alors, ils sont là, toutes réunies ensemble, les femmes, les apôtres, Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et ils sont tous là dans ce même lieu, dans cette chambre. Et puis là, la parole de Dieu nous a dit que tout d'un coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et cela nous décrit vraiment l'action de Dieu lorsqu'il envoie vraiment le Saint-Esprit, tout comme le bruit du vent est un symbole, eh bien, ces langues qui vont descendre sur les apôtres n'étaient pas littéralement des flammes, mais c'était des signes surnaturels, semblables à un feu qui confirmait que Dieu avait envoyé son Saint-Esprit sur les croyants. Le feu est souvent un des signes de la présence de Dieu. On se rappelle lorsque Moïse était plutôt dans ce désert, hein, vous vous rappelez, et qu'il y a eu ce buisson ardent et que Dieu lui a parlé. L'usage sous forme de flamme est parallèle aussi à l'envoi qu'il a été fait du Saint-Esprit comme une colombe qui est venue au baptême du Seigneur Jésus. Je vous dis tout cela comme introduction et on en arrive à notre sujet pour ce matin. Et quelles sont ces 7 étapes qui vont mener à la gloire de Dieu? Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit que dans Éphésiens au chapitre 1er, que nous sommes prédestinés à servir à la louange et à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si on le réalise, mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, on l'a entendu ce matin dans la première réunion, on était indignes, on était des pécheurs coupables, on ne méritait pas cela, mais pourtant Dieu nous a prédestinés, nous a choisis, puis a fait de nous ses enfants. Pourquoi? Pour servir à la louange et à la gloire de son nom. Et c'est pour ça que c'est bon de connaître c'est quoi la gloire de Christ dans ces 7 étapes. Eh bien, la première, on l'a vu quand on l'a lu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et le verset 22. Il nous est écrit « Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, en d'autres mots, cet homme qui était approuvé de Dieu. » Et qu'est-ce qui prouvait qu'il était approuvé de Dieu? C'était ses miracles, ses prodiges, ses signes que Jésus faisait. Tout cela prouvait vraiment que Jésus était approuvé de Dieu. Et je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici pour vous dire que c'est surprenant de voir que les Écritures et le Saint-Esprit a permis d'écrire dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et à partir du verset 4 au verset 9, et il utilise ce même mot « approuvé » pour l'Antichrist. Vous savez, nous nous approchons, comme je l'ai dit, de plus en plus de l'enlèvement du Seigneur. Le Seigneur va venir chercher son Église bientôt. Et c'est surprenant que le Saint-Esprit se soit servi de cela, puis je fais juste le mentionner comme ça, parce que il sera approuvé par les hommes et puis va même se présenter dans le temple comme étant Dieu. Et pour cela, il va faire un peu comme Jésus a fait. Hein? Il va se servir de signes, de miracles, mais aussi, quoi, de prodiges mensongers. Il ne prêchera pas la vérité, mais ce sera le mensonge. Et tout cela va se produire après l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur va devenir chercher ceux qui lui appartiennent. Et je ferme maintenant la parenthèse pour retourner dans notre texte où Pierre nous dit, et vous le voyez, il présente Jésus en disant, « Il était approuvé de Dieu, homme, cet homme que Dieu a donné son approbation envers lui. » Eh bien, Dieu l'a approuvé et il le présente comme l'approuvé à travers ses miracles, à travers ses prodiges et ses signes. Mais vous savez quoi? Les hommes l'ont rejeté. Et puis je me pose la question, qu'est-ce qu'il en est pour nous ce matin? Moi, je ne vous connais pas tous. J'ai été invité parmi vous pour venir vous apporter le message. Mais vous savez, je ne vous connais pas tous. Et il se peut que ce matin, il y en ait parmi vous qui résistaient, qui ne voulaient pas accepter ce Jésus qui était approuvé de Dieu. Êtes-vous en train de le rejeter ce matin en le refusant? C'est une grande question. Et pourtant, vous savez, on a lu qu'il était approuvé de Dieu, mais la deuxième étape nous dit quoi? Il a été livré par Dieu. Oui, mais comment se fait-il que s'il était approuvé de Dieu, maintenant, il est livré par Dieu? Eh bien, on l'a lu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, puis le verset 23. Il était livré par Dieu. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu approuve quelqu'un et qu'il le livre ensuite pour être cloué sur une croix? Mais vous savez, mes chers amis, hein, c'était la seule alternative qui pouvait nous rendre justes devant Dieu. On était tous des coupables, tous des pécheurs. Et je ne connais pas votre condition ce matin, peut-être que c'est votre condition maintenant. Vous êtes peut-être encore un pécheur coupable. Mais vous savez, Dieu a employé ce seul moyen, son propre Fils. C'est lui qui l'a livré. Il a été consentant à ce que son Fils vienne ici-bas et qu'il prenne sur ses épaules mes péchés, vos péchés. Il les a payés en mourant sur cette croix du calvaire. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? C'est quelque chose de vrai. Il a été livré par Dieu. Bien sûr, les chefs religieux de son temps ont essayé de lui enlever la vie. On a essayé de se débarrasser de Jésus parce que leur conscience était troublée. Ils se sentaient accusés dans leur péché à cause de ce que Jésus faisait et de ce qu'il était. Alors, ils n'étaient pas en paix. Alors, ils ont dit, oh, on va se débarrasser de Jésus. Ils ont pensé qu'ils avaient réussi lorsqu'on l'a cloué sur la croix. Mais nous connaissons la parole de Dieu qui nous dit, hein, Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que, quoi? C'est Dieu qui nous a donné son Fils sur la croix du calvaire. Et vous réalisez pourquoi que le Christ a été cloué? À cause que le péché, c'est quelque chose d'odieux, de grave, qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Mais le Fils, il a pris sur lui nos péchés. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, hein, ça nous le dit, « Celui qui n'a point péché, il est devenu péché pour nous. » C'est-à-dire qu'il s'est couvert de nos péchés. Et lorsque Dieu regardait sur la croix, eh bien, c'était plus son Fils qu'il voyait, mais il voyait la laideur de nos péchés. Et c'est pour cela qu'il a dû détourner ses regards de son Fils. Quel amour Dieu a eu pour nous! Quel amour il a eu pour nous! Et vous savez, tout cela s'est fait selon le plan établi de Dieu. Dieu n'a pas été surpris de voir qu'on était des pécheurs, qu'on était coupables. Il le savait. Dieu n'a pas fait des robots de nous. Il a fait une créature libre. Et ce matin, vous êtes aussi encore libre de l'accepter ou de le refuser, comme le peuple a fait lorsque Jésus était ici-bas. Il y a beaucoup de ce peuple juif qui l'ont rejeté. Les chefs religieux l'ont rejeté. Encore de nos jours, il y a des personnes qui rejettent Jésus. Ils ne veulent rien savoir de Jésus dans leur vie. Mais un jour, ils verront quelque chose de vraiment terrible leur arriver. Tout s'est fait selon le plan de Dieu, selon sa souveraineté, mais selon aussi sa grande miséricorde. Est-ce qu'on réalise que si Jésus n'était pas mort, on serait tous encore dans nos péchés? Et quelle direction est-ce qu'on s'en irait? On s'en irait loin de Dieu, pour l'éternité, privé de sa gloire. Alors, quel sauveur merveilleux nous possédons! Et c'était merveilleux de chanter ces cantiques, hein, et de se préparer, de le louer parce qu'il le mérite. Il est celui qui mérite la louange et la gloire. Vous savez, aujourd'hui, on célèbre beaucoup des athlètes pour tout ce qu'ils font. On parle d'eux pendant un certain temps. Mais quel athlète aurait consenti de mourir pour une personne indigne? Je pense que c'est notre frère Gilles qui a mentionné, hein, qu'on était des mécréants, des gens de rien. Trouvez-moi un athlète qui voudrait donner sa vie pour quelqu'un comme cela. Il n'y en a pas un, hein? Parce qu'il veut garder sa gloire. Et vous savez, le Christ, il a quitté ce beau ciel merveilleux. Et il est venu ici-bas. Il a pris cette forme d'homme. Il est devenu semblable à nous, sauf le péché, car il était sans péché. Mais il a pris sur lui nos péchés. Il a été livré. Mais vous savez, même s'il a été livré par Dieu, Pierre veut démontrer que même si c'était la souveraineté de Dieu, eh bien cela n'annule pas non plus la responsabilité de l'homme. Parce que vous savez quoi? On l'a lu, cette troisième étape qu'on va voir, c'est qu'il a été crucifié par l'homme. Il a été crucifié par l'homme. Et Pierre tient vraiment ses auditeurs pour responsables de la mort du Seigneur. Vous l'avez crucifié. Oui, c'était dans le plan de Dieu, mais c'est votre choix personnel. C'est vous qui l'avez crucifié. Et vous savez, nous connaissons, et prenez-les en note, Isaïe 53, il y en a plusieurs parmi nous qui le connaissent vraiment par cœur. À partir du verset 3, verset 6, il nous est dit que c'est vraiment à cause de nos péchés qu'il a été cloué sur cette croix, à cause de nos péchés, de nos iniquités. C'est par amour pour chacun de nous. Et vous savez, Pierre tient vraiment ces personnes comme responsables. Et en tant que membres de la nation juive, ils étaient responsables d'avoir rejeté leur Messie. Mais vous savez quoi? Le rejet du Messie nous a ouvert à nous, qui étions non des Juifs, et nous a ouvert tout grande la porte de la grâce que le Seigneur veut nous accorder. Et vous savez, on pourrait se poser la question, pour nous maintenant, qu'allons-nous faire de cette grâce? Dieu veut nous donner cette grâce, nous pardonner nos péchés. Il veut faire de nous ses enfants, mais il ne nous obligera pas. Il ne nous forcera pas à l'accepter comme le maître, comme le sauveur de notre vie. Mais dans notre texte, nous voyons qu'il y a eu 3000 personnes. Si vous lisez tout le contexte, vous allez voir que 3000 personnes crurent et ils ont été baptisés. Et dans les Actes des apôtres, Étienne, en parlant d'Abraham, de Joseph, de Moïse et de David, et ensuite de Jésus, il exhorte, à partir du verset 51 au verset 53, à se repentir. Mais vous savez quoi? Les hommes ont rejeté le message. Puis moi, je ne sais pas, après la réunion, vous allez peut-être quitter cette salle en ayant encore refusé d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Il vous aime et il insiste ce matin d'une façon spéciale. Je veux que tu me reçoives comme ton sauveur. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est peut-être aujourd'hui la dernière fois que tu vas entendre parler de l'Évangile. C'est peut-être la dernière fois que tu vas entendre ce message. Mais Dieu insiste. Repens-toi. Reconnais que tu es un pécheur, que tu ne mérites pas d'être sauvé. Mais Dieu t'aime et il a donné son Fils pour te sauver. Dieu nous offre le salut et la paix avec lui, de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il y a tant de gens aujourd'hui, vous le savez, on appelle notre région de la Mauricie la mort ici. Parce que le monde sont découragés. Il n'y a plus de solution à la vie. On a essayé la boisson, la drogue, le sexe. On a tout essayé au Québec. Et il n'y a plus d'alternative que le monde pense. Et ils pensent que le suicide va leur permettre de tout échapper. Mais nous avons une vraie solution. Pas une solution de mort, mais une solution de vie avec Jésus. C'est ça qui est beau. Jésus nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. Et c'est accessible pour chacun de nous. Et vous savez, comme je l'ai fait dans mon assemblée, je voudrais inviter les jeunes. Il y en a parmi nous qui sommes jeunes ici, un peu plus jeunes que moi, en tout cas. Alors, le Seigneur veut vous parler. Peut-être que Satan ou peut-être que votre moi vous dit, écoute, tu es encore jeune. Attends avant d'accepter le Seigneur. Profite de ta vie. Profite de toutes les occasions. Mais ce qu'il oublie de te dire, c'est que tu n'es pas le maître de ta vie. Personne ne sait l'heure ou le jour où le Christ va venir nous prendre, nous enlever la vie. Alors, il faut être prêt. Il faut être prêt pour cette rencontre avec notre Dieu. Et cela nous amène, après que le Christ a été crucifié, après qu'il a été approuvé de Dieu, livré par Dieu, crucifié par l'homme et mort sur la croix, eh bien, Dieu Il a ressuscité. Quelque chose de merveilleux. Dieu l'a ressuscité. Et Pierre, en passant par David, dit que la promesse qui avait été faite était vraiment pour Jésus, hein, ce descendant de David. Et vous savez, je me suis posé la question en relisant le texte, et puis je me mettais dans le pot, puis je me disais, Pierre est en train de leur dire, « Hey, écoutez, vous, peuple d'Israël, ce Jésus qui est approuvé de Dieu, vous l'avez rejeté, c'était, oui, livré par Dieu, mais vous l'avez crucifié. » Hey, quelle différence! Dans ce Pierre qui, plusieurs jours, peut-être 50 quelques, je ne peux pas le dire exactement, 60 peut-être, hein, il avait renié de connaître ce Jésus. Il avait dit, non, non, moi je ne le connais pas. Puis ce n'était pas devant un soldat romain. Hein. On nous dit que c'était devant une petite servante. Et Pierre, hein, n'ayant pas encore reçu le Saint-Esprit, hein, il avait dit, non, non, moi je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Et pourtant, on le retrouve après cette bénédiction spéciale. Hein? Et Pierre dit, « Hey, écoutez, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous des témoins. » C'est la puissance de Dieu qui a été manifestée à travers Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a changé, qui a pris la décision. Ah, « Là, à partir d'aujourd'hui, hein, je vais être une personne qui va tenir debout. » Ben non. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette puissance de se tenir debout et de dire au peuple, écoutez, vous avez péché, vous avez livré le Christ, mais Dieu l'a ressuscité. Et vous pouvez relire chez vous Éphésiens chapitre 1er jusqu'au verset 19, et vous allez voir ces quatre expressions de la puissance de Dieu qui sont manifestées dans la résurrection du Seigneur Jésus. Et après que Dieu l'ait ressuscité, eh bien, Dieu a élevé son Fils. Et vous savez, c'était quelque chose de merveilleux. Mais juste avant, il faut se rappeler aussi que c'est par la même puissance que Dieu agit pour amener des âmes à la repentance. Vous savez, ce n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas la belle prédication qui peut amener une âme au Seigneur. Nous, nous ne faisons que le travail du Seigneur. Nous invitons les âmes à se repentir et à venir à Christ. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une âme va venir à Christ? Ce n'est pas parce que je suis meilleur prédicateur qu'un autre, hein, je me sens vraiment moins qu'un autre. Mais c'est Dieu qui, par son Esprit Saint, va travailler dans les cœurs et dans les âmes. Et cela nous rappelle que nous étions autrefois, nous aussi, hein, des pécheurs, on était morts dans nos péchés, et par nos œuvres. Et je ne sais pas pour vous ce matin, dans quelle condition vous êtes ce matin. Vous vous trouvez encore peut-être dans cette condition que vous n'avez pas reçu le Seigneur. Eh bien, ne résistez pas à son appel, mais acceptez le Christ. Et pour revenir à cette élévation de Dieu, Jésus avait bien dit à ses disciples, hein, en parlant de sa mort, qu'il allait être élevé. Mais lorsque Dieu a ressuscité son Fils, il l'élève au-dessus de tout. Et j'aimerais vous inviter à écouter quelques témoignages en les lisant dans la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, nous lisons que Christ est monté vers son Père. Il est ressuscité, mais il est monté vers son Père. Et vous savez, dimanche passé, j'étais parmi vous lorsqu'il y a eu ce baptême. Et je me rappelle, je pense qu'un frère a prié puis a dit qu'il y avait dans le ciel de la joie. Les anges et puis tous ceux qui étaient là, hein, se réjouissaient à cause qu'il y avait des âmes qui s'étaient converties. Et on avait le témoignage de ces personnes dimanche passé. Mais pouvez-vous vous imaginer vraiment l'accueil qu'a eu le Seigneur, l'accueil triomphal lorsqu'il est entré dans le ciel après sa mort, après avoir été ressuscité et élevé pour retourner vers son Père. Hein, tous les anges ont dû proclamer sa grandeur et aussi son œuvre accomplie sur la croix du calvaire. Ça devait être quelque chose de merveilleux. Vous savez, un jour, on va entrer, nous aussi, nous qui sommes chrétiens, qui avons cette espérance. Un jour, on va être avec le Christ là-haut, dans le ciel, et on va participer à cette gloire à la gloire de Christ, nous serons tous ensemble, ayant cette communion avec lui. Dans Marc, au chapitre 16, au verset 19, il nous est dit que le Christ est assis à la droite de Dieu. Et qui d'autre que Christ pouvait s'asseoir à la droite de Dieu? Cette position d'autorité, dans les Actes des apôtres, on lit encore qu'il a été élevé par la droite ou par la puissance de Dieu. Il a été vraiment exalté. Et vous vous rappelez aussi, lorsqu'on est venu pour lapider Étienne dans les Actes des apôtres, au chapitre 7, Étienne a levé les yeux et il a vu la gloire de Dieu et il voyait Jésus debout à la droite de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Il a été élevé. Et l'apôtre Pierre continue à décrire ce que Christ a fait, que Dieu a fait pour Christ après sa résurrection. Il nous dira au chapitre 5 et verset 31 qu'il l'a élevé, prince et sauveur. Alors, ça me donne encore l'occasion de vous demander, est-il le prince de votre vie? Est-il votre sauveur? Est-ce qu'il est exalté? Est-ce que le nom du Seigneur est exalté, loué à cause de vous? Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas les circonstances de vos vies. Puis je ne suis pas là pour vous juger. Puis je parle à ceux qui, parmi nous, qui nous nous disons chrétiens. Vous savez, si Christ n'est pas exalté maintenant par ma vie, si ma vie n'est pas un bon témoignage, quelque chose qui fait que le monde va parler en bien de Dieu, vous pensez qu'un jour, quand je vais être au ciel, ça va être que je vais pouvoir l'exalter là? Si je ne le fais pas maintenant, vous pensez que je vais le faire là-haut à un moment donné plus tard? Eh bien, cela nous parle, cela nous place dans la décision qu'il faut que par ma vie, maintenant, aujourd'hui, que le Christ soit exalté par ma vie. Le monde qui m'entoure, ceux que je côtoie, qu'est-ce qu'ils entendent de ma bouche? Qu'est-ce qu'ils voient de ma vie? Est-ce qu'ils voient un reflet de Jésus? Quelque chose qui leur parle de ce divin maître? Ou est-ce qu'ils voient les effets encore de ma vieille nature, un résultat de ma chair? Vous savez, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser puis y réfléchir. Le Christ veut être élevé et Dieu veut se servir de nous. Vous savez, Dieu ne va pas descendre du ciel pour que le nom de Christ soit exalté. Maintenant, il se sert de nous, ses enfants. Il veut, à travers nous, que son nom soit exalté. Mais si on dit de moi, si c'est ça que d'être chrétien, bien moi, j'aime mieux pas être chrétien. Il y a tout lieu de se poser des questions, de sérieuses questions. Vous savez, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable devant le Seigneur. Un jour, Dieu va me demander des comptes, comme il va vous demander à vous aussi des comptes. Ce n'est pas devant moi que vous aurez à répondre, mais devant celui qui a donné sa vie pour vous. Est-ce qu'on réalise qu'il a tellement payé cher pour me sauver, pour vous sauver? Il nous aime tellement, mais il voudrait que son nom soit exalté par ma vie, par votre vie. Paul va dire en Philippiens, au chapitre 2, au verset 9, que Christ a été exalté, puis il est assis à la droite de Dieu. Hébreux, chapitre 2, verset 9, va dire que Jésus, il est couronné de gloire et d'honneur. Et cela nous amène à la sixième étape qui mène à la gloire de Christ, c'est qu'il a été oint dans la gloire. Au verset 33, on l'a lu, qu'il est oint de l'Esprit dans la gloire. Et l'onction dont Dieu a oint le Seigneur, il l'a répandue sur ses compagnons appelés, ses frères saints donc. Vous tous qui avez accepté le Seigneur, vous êtes ses frères, vous faites partie de sa famille et vous participez à cet appel céleste. Dans les Actes des apôtres au chapitre 2 et versets 2 à 4, on a lu, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues et ils ont prêché ce merveilleux message d'un Christ crucifié, mais ressuscité et aussi exalté. Et cela va nous amener à notre dernière étape, qui est l'étape que Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Christ. C'est cette septième étape. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 10, il est écrit « Un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur. » Vous savez, nous les chrétiens, on dit, hein, « Même ceux qui auront refusé le Christ, qui l'auront rejeté, seront obligés de courber devant le Seigneur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, hein? Mais mes chers amis, même si on n'est pas d'accord, hein, on sait que c'est vrai. Tout genou va plier devant le Seigneur. Mais vous savez, il y a une chose qui est importante, puis elle est écrite là au tableau. Eh bien, pour nous chrétiens, à propos de Christ comme Seigneur, hein, on peut dès maintenant l'avoir comme Seigneur de notre vie avec adoration et avec action de grâce en se réjouissant dans ce bien-aimé qui nous a aimés. Je ne sais pas pour vous si, après avoir accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je me rappelle que quand vous avez prononcé les vœux dimanche passé pour ceux qui viennent d'être baptisés, pour d'autres que ça fait nombre d'années, un peu plus, eh bien, vous vous rappelez de ces questions qu'on vous a demandées. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, et est-ce que tu désires le suivre? Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à l'accepter comme sauveur, mais d'un autre côté, tu l'acceptes aussi comme le Seigneur de ta vie. Et c'est ça qui est triste quelquefois. La Seigneurie du Seigneur Jésus ne se manifeste pas dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui sont malheureux. Oh, bien sûr, ils ont accepté le Christ comme leur sauveur, qu'ils nous le disent. Mais, dans ce qui est du Seigneur de leur vie, ça laisse à désirer. On tolère toutes sortes de choses dans nos vies. On ferme les yeux sur certains, ce qu'on dit entre parenthèses, petits péchés. Et on pense que tout va bien. Mais vous savez, c'est important que le Christ ne soit pas juste un sauveur, mais qu'il soit le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire le Maître, celui qui a décision sur ma vie. Il est le boss de ma vie. S'il veut m'emmener par un chemin où je serai béni, où ce que c'est que j'aurai toutes sortes de choses, eh bien, gloire à Dieu. Mais s'il m'amène dans des chemins douloureux, dans des chemins périlleux, dans des chemins de douleur, eh bien, il est encore mon boss. C'est lui mon maître. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il va m'emmener, je veux qu'il reste le Seigneur de ma vie. Pourquoi? Ben parce que je l'aime. Pourquoi est-ce que je l'aime? Ben parce qu'il m'a aimé. Il m'a aimé. Moi qui étais si indigne d'être aimé. Moi qui étais indigne d'être aimé. Dieu m'a aimé. Et ce matin, je veux vous transmettre la même chose. Hein? Dieu vous aime. Et il veut être le Seigneur de ta vie. Il veut la diriger, ta vie. Il veut la conduire. Bien sûr, ça ne sera pas toujours comme toi tu l'auras voulu, mais ce sera toujours pour sa gloire et aussi pour son honneur. En tant que Seigneur, il a autorité de régner et puis d'administrer dans le royaume de Dieu. Mais aussi en tant que Christ, il est le chef de cette Église du Dieu vivant qui a commencé à être bâtie ce premier jour lorsque Pierre a donné ce sermon et que 3000 personnes se sont convertis à Dieu. Et vous savez, maintenant, on arrive juste à quelques minutes de la fin. On a vu ces sept étapes qui nous parlent de la gloire de Christ. Et pour terminer, j'aimerais vous poser cette même question. Quels ont été les effets du discours de Pierre? Vous vous rappelez quels ont été les effets du discours de Pierre? Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on ne les a pas lus, mais si vous avez vu le contexte, à partir du verset 37 au verset 40, il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est plus ce matin que vous ayez le cœur touché, mais que vous quittiez cette salle sans rien faire, sans rien changer, Ça vous a touché d'entendre parler d'un Christ qui est mort à votre place. Mais vous pouvez peut-être quitter cette salle sans prendre aucune position. Mais eux, ils ont demandé, « Homme frère, que ferons-nous? C'est vrai qu'on est coupable. C'est vrai que nos péchés nous condamnent à être privés de la gloire de Dieu pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? » Alors, au verset 38, Pierre de leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Repentez-vous. C'est un mot qu'on n'ose plus trop employer dans nos jours. Dans d'autres traductions, on aura que Dieu veut qu'on change de direction. Il veut changer notre direction face à nos pensées vis-à-vis de Dieu, face à notre conduite aussi sur cette terre. Il veut changer notre direction. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Comme je l'ai dit, il se peut que vous quittiez cette salle sans prendre de décision. Mais moi, j'aimerais vous inviter ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes juste sur le bord, mais prenez la décision maintenant. Acceptez le Christ. Il est mort pour vous. Il a payé la dette de vos péchés. Et c'est lui qui vous invite. On l'a lu dans un texte ce matin, un frère qui l'a mentionné, où ça dit « Venez à moi ». On ne vous invite pas à venir à des leaders spirituels, à ceux qui vous conduisent. Mais nous tous, on invite le monde à venir au Christ. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous avez le poids de vos péchés qui pèsent sur vos épaules. C'est lourd à porter, c'est douloureux, je vous comprends, j'ai déjà passé par là. Mais vous pouvez avoir la délivrance en acceptant le Christ comme votre sauveur, mais aussi comme le Seigneur de votre vie. Je vous en supplie ce matin. » Ne quittez pas cette salle sans avoir fait ce choix. Et pour nous, comme chrétiens, comme je l'ai mentionné, il se peut que pendant un certain temps, je n'ai pas toujours été fidèle au Seigneur. Il se peut que je n'ai pas laissé sa seigneurie dans ma vie, que je ne l'ai pas laissé rôner, diriger ma vie. Mais ce matin, je peux lui demander, « Seigneur, pardonne-moi et deviens le Seigneur de ma vie. Je veux te manifester mon amour en réponse à tant d'amour que tu as eu envers moi. » On est des personnes qui ne méritions pas son amour, mais il nous a tant aimés. Alors que le Seigneur puisse nous bénir ce matin, qu'il puisse nous parler à travers sa parole et qu'on prenne une position, que ce soit de l'accepter comme sauveur ou de renouveler notre engagement comme le Seigneur et le Maître de notre vie. On va baisser nos têtes et je ne sais pas si quelqu'un de vous va prier. Oui, moi-même. Okay, on va prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. Il y a des textes qui ont dû nous parler à chacun de nous. Il y a peut-être des circonstances dans nos vies que tu veux que l'on change, que ce soit de prendre cette décision de t'accepter comme sauveur, comme celui qui a payé la dette de nos péchés, et de te recevoir aussi comme le Seigneur de nos vies. Seigneur, on te prie de bénir tous ceux qui sont ici dans cette salle, de bénir cette église, cette assemblée. Seigneur, préserve cette assemblée de toute attaque de Satan. Bénis cette Église, qu'elle soit un témoignage vivant qui va confesser que ton Fils était approuvé de toi, que tu l'as livré pour payer nos péchés, que c'est nous, que ce sont nos péchés qui l'ont cloué sur cette croix. Mais il n'est pas resté mort, on l'a chanté. Il est ressuscité et maintenant il a été élevé dans cette gloire, béni par le Saint-Esprit qu'il a transmis à chacun de nous. Et Seigneur Dieu, il a été fait Seigneur et aussi le Christ, qu'il puisse l'être tout entier dans chacune de ces choses dans notre vie, que nous puissions être un reflet de ce que tu désires de chacun de nous. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. ne nous laisse pas quitter cette salle sans qu'il y ait quelque chose qui nous ait parlé. Encore une fois, bénis chacun de nous, en ton nom et pour ta plus grande gloire. Amen.